Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Alors, Mathieu, on revient bien sûr sur le débat d'hier. Il y avait des moments surréalistes. Par exemple, Éric Duhaime qui dit « Je suis tanné des chicanes constitutionnelles ». Mais je m'excuse, mais le Canada, lui, est pas tanné des chicanes constitutionnelles.
Non, mais c'est exactement ça. Ça m'a fait penser à une formule de Julien Freund, le philosophe, qui disait « Même si vous ne voulez pas d'ennemis, si l'ennemi vous désigne, vous êtes son ennemi.
Ben » oui.
Je transpose. Si vous pouvez ne plus avoir envie de parler de constitution, mais si le Canada centralise toujours davantage, si le Canada, par sa Cour suprême, nous impose son multiculturalisme grâce à la loi 21, si les lois linguistiques sont dépassées par Ottawa, si le Québec réclame des pouvoirs dont il a besoin, puis Ottawa dit seulement non, ça ne nous intéresse pas, on a beau être tanné de ces chicanes-là, comme qui dirait, elles continuent de se poser. Et de la même manière, quand Dominique Anglade, avec son parti qui fait 7% chez les francophones, les bonjours, qui dit vous divisez la société québécoise, mais croit-elle sérieusement un seul instant réunir ou rassembler qui que ce soit? Je dis à la blague que oui, le PLQ nous rassemble et nous rassemble tous contre lui. C'est un parti dont les Québécois francophones ont gardé un souvenir toxique et n'ont pas l'intention de se remettre leur destin dans ses mains. Donc, je regardais ça. Ensuite, un autre moment un peu lunaire, loufoque, c'est l'échange tardif vers la fin sur la question de l'indépendance, quand François Legault manifestement commence à comprendre que des électeurs nationalistes ou indépendantistes qui retournent vers le PQ. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Un référendum, voteriez oui ou voteriez non? Là, il veut pas répondre, puis il dit, il n'y en aura pas de référendum. D'accord, il n'y en aura pas, mais s'il y en avait un, qu'est-ce que vous préférez comme solution? Quand il a fondé la CAQ en 2012 environ, il avait dit, pour se débarrasser des médias, je voterai non. Et là, quand on lui demande, vous voteriez comment? Mais il veut plus le dire. Il veut, donc ça a évolué. Et puis, faut se dire, en voter oui, c'est que le Québec ait tous les pouvoirs. Voter non, c'est dire que le Québec doit avoir moins de pouvoirs, puis confier ses pouvoirs au Canada anglais. Donc là, on a vu ça, on a vu François Legault hésitant sur cette question, comme s'il se rendait compte qu'il y avait une percée relative, certes, mais réelle du Parti québécois. Donc c'est un espèce de débat un peu étrange, intéressant, certes, intéressant, mais un peu étrange dans la mesure où plusieurs sont déculottés et d'autres continuent d'avoir une politique sur le mode de la fiche publicitaire, mais sans trop de contenu.
Écoute, lorsque François Legault a dit là blâmé lors du premier débat, je pense qu'il a dit ça lors du premier débat, je suis pas sûr, mais qu'il a blâmé Dominique Anglade, il a dit ça va plus votre affaire depuis que vous n'avez plus le monopole du combat contre les souverainistes. J'aurais aimé voir la face de Bernard Drinville, j'aurais aimé voir la face de Caroline Saint-Hilaire, parce que là, c'était plus loin, là. C'était pas seulement un parti fédéraliste, c'est un parti qui combat ouvertement les souverainistes.
Oui, puis surtout, honnêtement, c'est que on connaît François Legault, on commence à connaître la bête, puis il y a une faiblesse chez François Legault, il y a plein de qualités, mais il y a une faiblesse, c'est que c'est pas le plus habile avec les mots. Donc, il lui arrive de s'enfarger dans ses propres déclarations. Et plus le sujet est délicat ou essentiel, plus il s'enfarge. Bon. Et là, il l'a fait un peu. D'ailleurs, François Legault, quand PSPP lui a fait remarquer hier, Monsieur Legault, vous vous êtes vanté d'être encore plus ardent dans le combat contre l'indépendance que le PLQ, ou de vous définir par le combat contre l'indépendance, je n'ai pas dit ça. Mais oui, vous l'avez dit, Monsieur Legault. Mais oui, vous l'avez dit. Donc là, on voit que lui-même, il cherche un positionnement entre ce que je crois être ses réflexes premiers, ses convictions intimes, ensuite sa position politique, ensuite la percée d'adversaires électoraux qu'il n'avait pas vu venir. Et il croyait que le PQ c'était réglé, c'était terminé, c'était fini. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, mais pour l'instant, le Parti québécois a quand même le vent dans les voiles. Il pourrait se retrouver avec 15, 16, 17%. Ça veut dire un retour d'un vrai parti souverainiste dans la vie politique québécoise. Il y a quelque chose à travers tout cela qui fragilise M. Legault. Puis au même moment, déplaçons le regard sur Gabriel Nadeau-Dubois, qui, quand lui vient le temps de parler de souveraineté, est incapable d'en parler simplement. Là, il nous dit un nouveau pays avec un système démocratique transformé, pour ou contre l'indépendance du GND, pour ou contre l'indépendance, pas un nouveau système qui permettra, dans ce contexte de délit, il y a quelque chose dans le souverainisme de GND qui est alambiqué. On dirait qu'il utilise le mot pour ses électeurs souverainistes, et il veut pas qu'on s'en rende compte parce qu'il veut percer chez les Anglos. Bon, mais à un moment donné, il faut quand même être clair minimalement dans la vie.
Et c'est étonnant de voir à quel point Éric Duhaime n'a rien à dire sur l'immigration, sur la langue, sur les dossiers identitaires. Il n'a rien à dire.
Ben c'est drôle, hein, parce que Duhaime, en plus, c'est pour ça que là-dessus, on est dans une position particulière, parce qu'on connaît le parcours des gens, on connaît leurs convictions fondamentales, on voit ensuite qu'en politique, on s'adapte. Éric Duhaime, son parti l'a obligé à avoir une politique d'immigration. Il utilise le concept de compatibilité civilisationnelle pour les immigrants. Là, ça en choque certains, ça en choque pas d'autres, mais le fait est que quand il utilise ce terme-là, ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a un problème d'intégration. Est-ce que le concept qu'il propose est le bon? Ça, c'est autre chose. Donc, il sait vaguement ça. Mais on dirait que Duhaime, politiquement, a décidé de tellement faire la cour aux Anglos, comme s'il voulait faire l'union, en fait, de la rive sud de Québec et puis du West Island, qui est une alliance un peu improbable, qu'il sacrifiait ce qui a été longtemps une partie de ce qui était Éric Duhaime, c'est-à-dire une forme de nationalisme québécois. Et là, il mène une campagne où ça devient presque absent, et plus encore, il en vient presque à se retourner contre ça. Et il y a quelque chose d'un peu triste, parce que Dominique Anglade, quand en fait de l'ultra-fédéralisme, c'est pas surprenant, c'est ce qu'elle est fondamentalement. C'est pas une nationaliste québécoise, c'est une fédéraliste. Elle croit au Canada à tout prix. Bon, mais Éric Duhaime, on connaît son parcours. Donc, est-ce qu'il y a un moment où Duhaime s'est dit a vraiment évolué puis ne pense plus ce qu'il pensait, ou est-ce qu'il est en train de se renier en direct? On peut se poser la question.
Et PSPP force les autres partis à regarder la réalité en face, parce que les autres partis font comme si ça n'existait pas, les combats constitutionnels. Et PSPP dit, je sais pas si vous le savez, là, mais on est actuellement au Québec dans un cul-de-sac constitutionnel. Ça fait 21 demandes qu'on fait au fédéral. On se fait fermer la porte d'en face. Vous faites comme si ça n'existait pas. La situation est urgente, les amis.
Dans la PSPP, franchement, là, au-delà du personnage en lui-même, il nous rappelle l'utilité d'un parti souverainiste dans notre vie politique. Parce que tous les autres aimeraient bien faire semblant que ça n'existe pas comme question. Puis là, il fait preuve de lucidité sur l'immigration, de lucidité sur la langue, de lucidité sur l'indépendance. Il oblige les autres partis à parler de questions qu'ils voudraient fuir. Et ça, je pense que beaucoup de gens qui en ce moment se disent « On a voté CAQ en 2018 pour tasser des libéraux, mais là, on revient-tu au PQ? » Je pense que plusieurs se disent, de la même manière qu'il fallait tasser des libéraux, plusieurs se disent « Faut pas laisser mourir le PQ. » Puis tant qu'il n'a pas le laissé mourir, on lui donne un groupe parlementaire, puis on élit son chef en même temps, ça va faire une Assemblée nationale plus vivante. Et ça, je pense que c'est la bonne nouvelle de ces élections. C'est-à-dire qu'une partie de l'électorat souverainiste a encore assez de réflexes, manifestement, et de vitalité pour se dire qu'une vie politique québécoise sans parti souverainiste, ce serait une vie politique incomplète, et mutilée et défraîchie.
Je parlais tantôt à Maître Pierre Bélanger, là, qui est PDG de chez Lelican, une firme en relations publiques. On revenait sur le débat. Et Maître Bélanger disait, rappelez-vous, lorsque les Québécois se sont rués en masse pour Jack Layton, ont voté NPD, ils ont failli tuer le Bloc. Et après ça, les Québécois se sont sentis un petit peu coupables en disant, tabarnouche, on a presque tué ce parti-là. Et en disant, on est allé trop fort dans la vague orange. Il dit, peut-être qu'il va y avoir ce sursaut-là des Québécois aussi en disant, ben là, est-ce qu'on veut vraiment tuer le PQ?
Ouais, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couches en politique. Hein. Il y a la couche publicitaire, ensuite il y a les courants profonds qui travaillent l'opinion, ensuite il y a le jeu des acteurs, hein, c'est-à-dire le jeu d'une bonne ou une mauvaise campagne, c'est le talent des politiques, il y a l'environnement global dans lequel on évolue, il y a tout ça, mais tout ça pèse. Et ce qu'on peut voir en ce moment, enfin, ça reste à confirmer, mais c'est une partie de ce qu'on pourrait appeler parmi les courants profonds dans la société québécoise. Il y a ce courant nationaliste véritable, donc indépendantiste, qui se dit, bon, On sait qu'on n'est pas à la veille d'un grand déblocage historique, mais on sait aussi qu'il faut garder au moins cette carte-là dans notre jeu, qu'on a gardé ses atouts dans notre jeu, cette carte dans notre main. Et là, c'est comme ça que je comprends le comportement de l'électorat. Puis ensuite, ben là, il y a un autre facteur. Sur PSPP, le type est manifestement très intelligent, il est cultivé, il réussit, il hausse le niveau, comme on dit en bon québécois, il hausse le niveau, puis il force les autres, finalement, à parler de politique autrement qu'en slogan. Ou alors, il révèle qu'il ne parle qu'en slogan, qui est un peu le sort de Dominique Anglade, qui fait pitié, en fait, c'est terrible. Hein? Parce que Dominique Anglade, c'est une femme intelligente. Ça, je pense que tout le monde le sait, tout le monde en convient. Mais c'est une femme qui jouait jusqu'à il y a quelques jours le rôle programmé du robot libéral. Puis là, elle a décidé de changer de stratégie. Puis là, elle veut qu'on l'appelle Dominique. Là, puis
ben
comme
oui.
si on était amis depuis la cour d'école. Et puis, on se comprenait, puis on se faisait des bines sur le bras. Puis, non, Madame Anglade, on vous appelle Madame Anglade. Il y a pas de doute là-dessus. Et puis, vous deviendrez pas, genre, notre meilleur ami d'un coup parce que vous changez de style, comme on dit. À un moment donné, le parti, elle manque pas de talent, Dominique Anglade. Mais manifestement, quand vient le temps de connecter avec l'électorat francophone, il y a quelque chose qui manque. Ce quelque chose qui manque, il le manque pas seulement à Dominique Anglade, mais il manque à tout le Parti libéral, qui est un parti qui a renié et qui a piétiné les droits des francophones puis les aspirations des francophones depuis, mon Dieu, depuis le référendum de 95 pour l'essentiel, puis plus encore sous Couillard. Donc, quand on voit tout ça, on dit que les élections qui étaient apparemment réglées d'avance, eh bien, il y a du jeu. Il y a pas mal de jeux. Et puis, autant Duhem a des chances de se faire élire dans son comté dans Chauveau, autant que le Parti québécois risque de peser davantage qu'on le croyait dans l'Assemblée, autant que Québec solidaire se dévoile à plusieurs, malgré le travail de propagande de Radio-Canada puis de tous les commentateurs qui n'en peuvent plus des MQS, on découvre que c'est un parti beaucoup plus radical qu'on le disait. Et donc, quant à la CAQ, on voit les limites. C'est-à-dire que, comme parti pour nous délivrer des libéraux, très bien, mais là, comme parti, c'est quoi le sens du deuxième mandat? Eh bien là, je devine que au war room de la CAQ, on spine un peu en ce moment en se demandant à quoi on va servir notre deuxième mandat, puisque les électeurs qui veulent néanmoins nous poser la question, continuons, certes, mais continuons quoi? On ne sait pas. C'est assez intéressant de le savoir.
Et je regardais Éric Duhem hier, là, qui est, entre autres sur le privé en santé, il était très bon parce que là, Gabriel Nadeau-Dubois avait dit si le privé en santé, ça fonctionnait, on le saurait. Et là, Duhem a répondu si le monopole, ça fonctionnait, on le saurait. C'est une très bonne ligne. Et je regardais Duhem, puis je me disais, c'est dommage que ce gars-là soit entouré de bozos, parce qu'il faut le dire, il y a plusieurs coucous autour de lui, dans ses candidats, dans ses militants, dans ses supporters. Il y en a beaucoup, des gens qui sont contre la théorie de l'évolution, qui contre le vaccin, etc., etc. Parce que il y aurait de la place pour un parti de droite qui défend certaines positions d'Éric Duhem. Plus intelligent, là. T'sais, lui, il est intelligent, mais ça gagne autour, là.
Je suis d'accord avec toi, mais évidemment, mais permets-moi d'ajouter que si on regarde QS, il y en a quelques-uns, quand même, des hurluberlus. Je veux dire, la candidate qui souhaiterait que voir les barrages disparaître, ainsi de suite, des cours d'eau, et ainsi de suite.
Oui.
Ben, c'est un hurluberlu, ça aussi.
Oui.
Je crois. Le candidat Haroun Bouazi, qui avait dit au lendemain de la tuerie de la mosquée de Québec que certains chroniqueurs avaient du sang sur les mains et étaient à l'origine de cette tuerie. Je m'excuse, c'est pas un demi-farfelu non plus. Donc, moi, je n'ai aucun problème à critiquer les farfelus chez Duhem. Tout ce qui m'agace là-dedans, c'est qu'on oublie de vérifier s'il n'y a pas des farfelus significatifs chez les autres. Et je trouve que chez QS, il y a des farfelus. Quand le candidat libéral, je pense aux Îles-de-la-Madeleine, si je ne me trompe pas, disait il y a quelques... On voyait ça, je pense, hier dans Le Devoir, qu'il accusait... il disait qu'on pratiquait un lent génocide contre les anglophones au Québec. Ben, mon Dieu, dire des choses de même, ça rentre quand même dans la catégorie farfelu et bozo. Donc, je pense qu'on s'est dit qu'il y en a pas mal de farfelus chez Duhem, c'est vrai, mais il y en a peut-être pas mal aussi dans d'autres parties.
Et c'est vrai, il y a un de mes amis, Guy Perkins, qui me faisait remarquer ça en disant, ben, tu sais, les candidats voilés qui étaient à Québec solidaire, je suis pas sûr qu'elle croit à la théorie de l'évolution. Pas sûr.
Mais voilà, il y a quelques questions à se poser par rapport à ce parti. le nombre de gens, moi, je me demande, si on jouait au cours d'histoire, puis on demandait aux candidats solidaires de la tendance marxiste, dis bon, mais pour vous, l'Union soviétique, est-ce que c'est un régime criminel à l'échelle de l'histoire, oui ou non? Je serais curieux de voir le nombre qui me dirait non, pas vraiment. Le communisme, c'est une belle théorie qui a échoué. Ah bon, c'est intéressant. Bon, je spécule, mais je pense que c'est le genre de choses qu'on pourrait... Je serais même curieux de savoir ce que GND en pense, Gabriel Nadeau-Dubois, du 20e siècle. Que retient-il de l'expérience communiste? Que retient-il de l'Union soviétique? Que retient-il des pays du castrisme? Qu'est-ce qu'il pense? Ça serait intéressant. Que pense-t-il de Che Guevara? Je devine qu'il doit l'admirer beaucoup. Mais puisqu'on cherche les farfelus, ce serait intéressant de savoir ce qu'il pense plus globalement. L'œuvre globale de Che Guevara qui disait notamment nous avons fusillé, nous fusillons, nous fusillerons. Je ne sais pas ce que GND en pense. Mais si on est à la recherche du farfelu dans un parti ou dans l'autre, eh bien, je serais curieux de passer mon détecteur à farfelu chez certains politiques de tous les partis, en fait, pour voir qu'est-ce qu'ils me répondraient. Il se peut finalement qu'on vive dans Farfelu Land.
Très bon. Qui tu vas recevoir demain à ton émission CNews? On peut regarder ton émission sur ta page Facebook. Qui tu vas recevoir?
Oui, alors je reçois François Bousquet, qui est le rédacteur en chef de la revue Éléments.
Quelle bonne revue!
Justement. Oui, je vais l'interviewer sur justement l'espèce de renouveau des droites en Europe, notamment en Suède, en Italie. Donc, comment il interprète ce phénomène-là? Donc, c'est toujours cette idée d'avoir des gens de toutes les tendances, puis d'être capable de voir quelle est leur lecture de certains événements. Donc, c'est demain soir, de 20h à 21h heure de Paris, donc 14h à 15h heure de Montréal.
On écoute ça. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. On se reparle lundi. Salut.
Bye bye.